Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Main vous fasse. Comme le disait poétiquement Cary Grant, un baiser est la juxtaposition de deux muscles orbiculaires en état de contraction. 30 muscles exactement, mon cher Cary. Mystère du baiser, comment expliquer les lois irrépressibles de l'attraction entre deux bouches? Comment la rencontre de deux anatomies, pas forcément ragoûtantes, langue, salive, dents, eh bien devient la fusion de deux âmes qui se désirent en produisant de puissantes sensations de plaisir? Comment expliquer qu'est cette transfiguration qui ne peut exister qu'entre deux personnes qui se désirent? Nul n'a jamais eu envie d'embrasser fougueusement une personne que l'on déteste, sauf peut-être au théâtre et au cinéma. Souvenez-vous de ce que disait Tony Curtis à propos de son baiser à Marilyn Monroe dans certains Lame Show. Embrasser Marilyn, c'est comme embrasser Hitler. Nous verrons ce matin d'où vient le baiser. Est-il universel? Existe-t-il un art de bien s'embrasser? Que dit-il de l'autre et de notre société? On s'intéressera également à la bise. Est-elle en voie de disparition avec les gestes barrières imposés par la crise sanitaire? Vous pouvez entrer dans la conversation au 01 45 24 7000 ou nous laisser un message, une note vocale sur l'appli France Inter. Bienvenue dans Grand Main vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rebéi, Grand Bien vous fasse.
T'as de beaux yeux, tu sais.
Embrassez-moi.
De Quai des Brumes avec Jean Gabin et Michel Morgan. Bonjour Jean-Claude Kaufmann.
Bonjour.
Pionnier de la microsociologie aux célèbres moustaches, après de nombreux livres consacrés au couple et à l'amour, il coulait de source que vous écriviez un livre sur le baiser. Ça s'appelle « Ce qu'embrasser veut dire » et c'est publié chez Payot. Cheminement naturel.
Oui, cheminement naturel, et surtout en ce moment, avec ce mot d'ordre au début de la pandémie, en France, mais pas seulement en France, un peu à travers le monde. Arrêter les embrassades. Aurait-on pu imaginer qu'un gouvernement un jour lance ce mot d'ordre absolument ahurissant?
Bonjour Belinda Cannon.
Bonjour.
Romancière, essayiste, maîtresse de conférences, maître de conférences en littérature, vous avez enseigné à l'université de Caen et vous avez publié Le baiser peut-être chez Alma Éditeur. Bonjour Jérôme Attal.
Bonjour.
Vous êtes écrivain, auteur, compositeur, interprète et scénariste et vous publiez aux éditions Les Pérégrines un très joli petit éloge du baiser. Bonjour Alexandre Lacroix.
Bonjour.
Directeur de la rédaction de Philosophie Magazine, vous avez publié en poche chez J'ai lu Contribution à la théorie du baiser. Alors le baiser, c'est l'acte, c'est ce que nous dit le Robert, de poser sa bouche sur une personne, une chose en signe d'affection, de respect. Quelle est votre définition personnelle du baiser, Belinda Cannon? Le baiser, vous le dites, c'est un moyen prodigieux de pénétrer le corps et l'âme de l'autre.
C'est vrai que je me suis beaucoup intéressée au baiser amoureux, plutôt. Et en effet, en y réfléchissant, je me suis dit que le baiser amoureux, c'était vraiment le plus beau geste du désir. Puisque vous savez qu'on n'embrasse jamais quelqu'un qu'on n'aime pas ou pour lequel on n'a pas un sentiment. Donc c'est un geste qui s'accompagne nécessairement de sentiments.
Jérôme Attal, pour vous, le baiser est à la fois l'entame et le tout, l'aperçu et la totalité.
Ouais, c'est aussi peut-être le départ de tout et la conclusion de rien. C'est tout d'un coup, on a le droit de se jeter un peu sur la ronde des desserts, alors qu'avant l'autre est un peu un étranger ou un inconnu.
Et le baiser dit que l'autre compte plus que tout dans l'instant.
Oui, vous savez, vous avez ouvert votre émission par des extraits de cinéma. Quand on sort d'un film qu'on adore et qu'on renoue avec la réalité, avec la rue, avec l'effervescence de la rue, on est comme dans une espèce d'illumination. Et j'ai l'impression que le baiser, c'est un peu ça. Elle nous dérobe du monde et à la fois, elle nous met dans l'imaginaire tout de suite.
Et vous écrivez que c'est une trappe dans l'espace-temps.
Ouais, c'est ça.
Oui.
Enfin, il y a beaucoup de choses sur le baiser. C'est aussi un acte magique. C'est un lien magique avec l'autre.
Oui, bien entendu, c'est un moment enchanté en réalité, le baiser. C'est-à-dire, c'est le moment où on crée un petit univers à deux, pour deux, où on est complètement coupé du monde et où le temps est suspendu. Donc c'est vraiment une bulle enchantée.
À deux au minimum.
Alexandre Lacroix, comment expliquer qu'un échange de langue, de viande, de bouillon de culture, se transfigure en autre chose?
Oui, c'est le mystère du baiser. C'est-à-dire qu'effectivement, on a
considérer objectivement une forme de répulsion pour la bouche de l'autre. C'est-à-dire que embrasser quelqu'un qu'on n'aime pas, c'est difficile, ça a été dit. Je pense que ça équivaut à peu près à se servir de la brosse à dents d'un inconnu. C'est quelque chose qu'on n'a pas forcément envie de faire. Et ce qui est très beau, c'est que tout d'un coup, le désir, les sentiments qu'on éprouve pour l'autre, transforment cette réalité organique pas très ragoûtante en quelque chose de suprêmement attirant. Et la merveille du baiser, je dirais, c'est que contrairement à l'acte sexuel, il n'y a pas une pulsion de conservation, de survie de l'espèce qui nous y pousse. C'est-à-dire que le baiser, contrairement à une légende, n'est pas du tout universel. Il n'a pas du tout existé dans toutes les cultures exactement de la même manière. L'espèce humaine n'a pas besoin de s'embrasser pour survivre. Et donc, si on le fait, c'est purement gratuit et c'est d'un autre ordre, c'est d'un ordre culturel, sentimental. C'est un acte complexe, en fait.
Quand on est amoureux, on a besoin de s'embrasser pour survivre, hein, Alexandre.
Pas du tout. C'est-à-dire que par exemple, toute l'Afrique subsaharienne, et ça c'est assez bien documenté par beaucoup de récits, ou même l'Océanie, les contacts avec le monde extérieur, ce sont des lieux où on n'embrasse pas sur la bouche. On peut le faire dans le cadre de la relation sexuelle ou des préliminaires, mais on le fait pas du tout avec le sens que ça a en Occident. En fait, la mondialisation du baiser, comme celle de la pizza par exemple au XXe siècle, elle est liée à un phénomène très précis, très daté, qui est le cinéma hollywoodien.
On y reviendra tout à l'heure. Jean-Claude Kaufmann, une vie sans jamais changer de baiser n'aurait pas beaucoup de sens?
Tout est possible, chacun construit sa vie à sa manière, mais effectivement, une vie sans baiser, sans aucun type de baiser est très difficile, déjà dès l'enfance. Le bébé a besoin du contact, du toucher, de la caresse, du baiser. Au très grand âge aussi, dans toutes les situations de fragilité, de montée émotionnelle positive, on a besoin de s'embrasser, négative, on a vu, encore une fois, je suis désolé, je reparle du confinement, mais ces enterrements sont la possibilité de se toucher les familles. Comment autrement communiquer l'émotion qu'en s'étreignant? Donc là, c'est l'embrassade avec les bras, mais il y a le baiser avec la bouche, le baiser affectif. C'est possible, une vie sans baiser, mais c'est une vie de sécheresse, inéluctablement.
Belinda Cadon.
Oui, je voulais dire deux petites choses quand même. D'une part que finalement le baiser avec la bouche et la salive, on nous ramène toujours cette idée que le baiser ça pourrait être dégoûtant. Hein. Je vous rappelle que toute la sexualité fonctionne aussi comme ça. Les organes génitaux de l'autre, ça pourrait être dégoûtant. C'est justement dans le désir que tout cela est transfiguré. Et par ailleurs, je voudrais protester un petit peu contre l'idée que la sexualité, ce que vous appelez la sexualité, disons l'érotisme, serait vouée à la procréation ou serait liée à la procréation. Je vous rappelle que c'est un acte humain très sophistiqué et qui n'est pas que voué à la procréation de l'espèce.
Alors est-ce l'amour qui fait le baiser ou le baiser qui enfonce l'amour? C'est l'une des questions que vous posez, Jean-Claude Kaufmann, dans votre livre.
Oui, et puis pour rebondir sur ce que disait Belinda Cannon, le baiser... ce n'est pas que le désir, que le plaisir, c'est le désir, le plaisir, mais il y a une dimension sentimentale dans l'élan qui porte vers l'autre. Et ça, c'est la particularité du baiser. On assiste actuellement à une marginalisation, une rétrogradation du baiser dans l'ordre de la sexualité. Il y a une banalisation aujourd'hui de la sexualité qui est mise en premier plan. Et quand on décrit le registre des pratiques sexuelles, le baiser est devient pratiquement... S'il s'agit de baiser sur les parties génitales, ça va. Mais le baiser sur la bouche, alors là, ça compte presque plus. Hein. C'est presque plus rien du tout.
Vous ne m'avez pas répondu, alors que peut-être que Belinda Cannon me répondra. Est-ce que l'amour, est-ce que c'est l'amour qui fait le baiser ou est-ce que c'est le baiser qui enfante l'amour?
Ah non, je crois vraiment que c'est l'amour qui fait le baiser. En tout cas, le baiser amoureux. Et vous savez, d'ailleurs, ce fameux livre-là était parti de cette idée-là. Les prostituées n'embrassent pas. C'est-à-dire que, alors qu'elles louent leur service sexuel, donc elles peuvent faire l'amour sans amour, elles refusent d'embrasser généralement. Et ça, c'est assez universel. Donc c'est quand même intéressant. Le baiser, c'est a vraiment vocation à exprimer l'amour. Il naît de l'amour qu'on a pour un autre. C'est d'ailleurs la beauté du baiser. Ça n'est pas une activité solipsiste, alors que finalement, on peut se donner du plaisir tout seul, mais on ne peut pas embrasser tout seul. Le baiser, c'est l'assomption de l'autre, au fond.
Alexandre Lacroix.
Oui, je voudrais réagir là-dessus, et notamment sur les prostituées. En fait, le geste du baiser tel que nous le pratiquons, c'est une tradition occidentale qui remonte à l'Empire romain. Et sous l'Empire romain, en fait, il y a trois gestes qui sont très codifiés. Il y a le basium, donc c'est un baiser sur la bouche. Nous, on appellerait ça le baiser à la russe, qui s'échange dans la famille, entre père et fils, entre mère et fille.
En fermant les yeux, je crois savoir.
En fermant les yeux, je ne sais pas. En tout cas, le basium, c'est un geste de respect, de piété filiale, qui soude la famille. Par extension, il y a l'os colum, c'est entre membres d'une même corporation. Les sénateurs, par exemple, romains, s'embrassent entre eux sur la bouche. Et puis il y a le suavium, qui est le baiser des
amants. Rappelons que l'os colum, c'est une marque d'amitié et de reconnaissance entre égaux. Hein.
C'est ça. Et il y a le suavium, qui est le baiser des amants. Alors, chez les Romains, il y a cette idée que quand on embrasse, qu'on signale par là, c'est qu'on appartient à la même famille, à la même catégorie sociale, au même ordre social. Il est impossible d'embrasser l'esclave. Donc on n'embrasse pas le prostitué ou la prostituée. Ça n'existe pas chez les Romains, c'est juste impossible. Et on peut tout à fait penser que l'interdit du baiser tel qu'il existe dans la tradition de la prostitution est une forme de protestation identitaire. C'est-à-dire que c'est d'abord une opprobre qu'on a jetée sur les prostituées de ne pas les embrasser parce qu'on ne les considérait pas comme des égaux. Et en fait, en retour, ils refusent d'embrasser. Mais chez les Romains, le baiser a une dimension politique, a une dimension sociale, et c'est un geste qui signifie d'abord qu'on est égaux.
Et Jean-Claude Kaufmann, vous rappelez dans votre livre que le baiser a une longue histoire politique.
Hein. Une très longue histoire politique. Très très longue histoire politique, très forte. C'était essentiellement politique. Et dans la vie privée, on se base sur les films, les reconstitutions historiques, mais qui sont faites à partir de nos pratiques d'aujourd'hui. À part dans les classes dominantes, dans l'aristocratie, dans la masse de la population, dans les pratiques de séduction, le baiser est très très rare. Il y a un certain nombre des folkloristes et tout ça jusqu'au 19e siècle qui ont décrit les pratiques. Par exemple, on se tordait les poignets, on se jetait des cailloux, ou même dans certaines régions. Alors là, je ne raconte pas des histoires. Allez voir Van Gennep, il décrit très très bien. Dans certaines régions, on passe contrat de fiançailles en se crachant mutuellement dans la bouche, par exemple. En période de Covid, ça serait... c'est surtout fin du 19e, début du 20e siècle, une majorité de femmes... rentre dans la vie maritale et dans la vie sexuelle sans avoir eu un seul baiser. C'est récent, ce baiser amoureux tel que nous le connaissons aujourd'hui. Et l'histoire politique est très ancienne, extrêmement ancienne. C'est le baiser qui structure les relations d'une manière horizontale. Par exemple, les chevaliers, ils constituent le groupe, la communauté, en s'embrassant sur la bouche. Hein, et puis, très très sérieusement. Quoi.
Un mot justement sur le baiser chrétien. Les premiers chrétiens s'embrassaient signe de reconnaissance. Hein, je cite saint Paul de Tarse, « Saluer tous les frères par un saint baiser. » Alexandre Lacroix.
Oui, parce que Paul donc est de culture romaine. Et en fait, effectivement, régulièrement, il termine ses épîtres, notamment l'épître aux Thessaloniciens, en recommandant aux croyants, aux fidèles, de la même foi, d'échanger entre eux le saint baiser. Alors, en latin, c'est le basium. Hein. Ça veut dire, en fait, que les premiers chrétiens sont en train de détourner les institutions familiales romaines. Ils s'appellent entre frères et sœurs, ils appellent Dieu leur père, et ils échangent entre eux le signe familial, le basium. Et d'ailleurs, du point de vue de l'étymologie, c'est intéressant parce que donc c'est un geste ça devient un geste religieux. On a parlé du geste politique. Politiquement, chez les Romains, ça signifie égalité. Le geste religieux, ça signifie qu'on partage la même foi. Ça, je pense que ça existe encore dans nos baisers, mais seulement c'est une foi en l'amour. C'est ce que j'ai entendu dans les premières réactions des invités qui disaient oui, mais c'est l'amour qui est là. Oui, c'est l'amour parce que il y a une proclamation de foi quand on embrasse. Il y a une transcendance qui nous traverse et dont on reconnaît la valeur. Donc ces origines ou cette empreinte culturelle religieuse qui a été déposée sur l'acte du baiser est toujours là, en fait. Et ça, c'est très important. Mais ce baiser des chrétiens va tomber en désuétude, il va être moqué d'abord évidemment, mais il va tomber en désuétude à partir du XIe siècle.
Belinda Cannon, il y a quelque chose de sacré dans le baiser amoureux.
Oui, et il y a quelque chose, pour reprendre ce qui vient d'être dit, de profondément égalitaire. Et ça, c'est une chose très frappante, finalement, dans la sexualité, du fait sans doute des corps et des habitudes, disons, culturelles. Nous n'avons pas des pratiques symétriques. Le baiser, c'est le seul moment où vous ne pouvez pas savoir qui embrasse l'autre. D'abord, ça s'échange, ça ne se donne pas, le baiser amoureux. Et surtout, regardez un couple en train de s'embrasser un peu loin dans la rue, si vous n'êtes pas assez près, vous ne saurez pas qui est l'homme et qui est la femme. Le baiser est le seul geste de l'amour qui soit absolument égal et qui ne soit pas genré, si je puis dire. Contrairement aux représentations.
Jérôme Attal, vous avez donc écrit un petit éloge du baiser. Comment est né ce petit éloge?
Ah ben alors moi je suis...
Pourquoi cet intérêt pour le baiser? Question que je poserai également à nos autres invités.
Je suis loin d'être un spécialiste, hein, comme nos invités autour de cette table. Mais non, il n'y a que ça qui m'intéresse, autant vous le dire. Depuis l'adolescence, c'est une espèce de graal toujours, ce baiser. C'était quand j'allais dans les booms ou quand j'étais... c'était vraiment... et puis, il y en a qui l'avaient déjà fait, et pas moi. Enfin, c'était... je raconte une histoire, là. Je suis dans une boom à un moment donné, je dois avoir 10, 11 ans, et tout d'un coup, je descends pour aller chercher mes affaires et rentrer chez moi, et il y a la mère de famille qui reçoit tous les enfants, me regarde avec des gros yeux et me dit je sais très bien ce que vous faites dans les chambres. Et moi, je savais pas du tout ce qui se passait dans les chambres. Et effectivement, après enquête, tout le monde s'embrassait sauf moi, donc voilà, j'ai commencé à m'intéresser au baiser. Et puis encore une fois, je trouve que dans ce monde de violence, ce monde de trivialité, ce monde qui nie la douceur tout le temps, le baiser devient un acte héroïque, comme au temps des chevaliers, justement.
Belinda Cannon, pourquoi cet intérêt pour le baiser ?
Justement, pour ce que je disais tout à l'heure, vous savez que j'écris souvent autour du désir, je réfléchis autour du désir de vivre prioritairement, mais aussi du désir sensuel, et je me suis aperçue que le baiser était le plus beau geste du désir, justement. Donc c'est la manifestation du désir. On embrasse quelqu'un. Regardez le verbe, d'ailleurs, on n'embrasse pas, on embrasse quelqu'un. On désire quelqu'un. Il y a une assomption de l'autre, il y a une grandeur de l'autre, une reconnaissance de l'altérité dans le baiser et un amour de l'altérité qui est une chose rare et exceptionnelle. C'est comme ça que je me suis intéressée au baiser.
Tiens, Jean-Claude Kaufmann, depuis quand s'embrasse-t-on pour se saluer ? De quand date la bise ?
Ah oui, alors là, on peut pas faire une réponse unique parce qu'il faudrait faire un tour du monde avec les diversités.
En France, en tout cas, elle s'est installée quand cette tradition ? Et pourquoi est-ce qu'il y a la tradition d'une bise à Rennes, de deux bises je ne sais où, de quatre bises ailleurs ?
Alors, si on fait le tour du monde, la diversité des rituels est encore plus grande. Et à un moment, ça s'installe, mais ça s'installe en évoluant. Regardez actuellement, on vit un changement très très fort. Donc, ce n'est pas fixe. Il y a à la fois un maintien d'un certain nombre de repères et une évolution. Et l'important, c'est que le rituel s'installe. Il y a un rituel qu'on vide de sa sensualité, d'une certaine manière. La bise de politesse, c'est avec les lèvres sur la peau, comme la bise d'affection et comme la bise amoureuse qui est sur les lèvres, sur les lèvres, et la bouche, et la langue, etc. Mais les lèvres sur la peau, c'est quand même, ça peut être un geste extrêmement sensuel, assimilable au baiser amoureux. Donc pour vider sa sensualité potentielle, il faut ritualiser d'une certaine manière. C'est comme ça. C'est deux bises. C'est une bise, c'est trois bises, et on s'abstrait d'une certaine... On ne s'abstrait pas complètement, parce que par la bise, on veut signaler quand même une affection. Le fait qu'avant la pandémie, il y ait eu un développement des bises de politesse, ça voulait dire ça, que dans notre société d'aujourd'hui, on meurt d'un manque d'affection, donc on a le désir d'aller plus loin vers l'autre, d'essayer de le toucher un petit peu plus avec un petit peu d'affection, mais sans en faire trop non plus, sans que ce soit la bise affective et surtout pas la bise amoureuse. Donc c'est très compliqué, et la façon de tenir cet équilibre, c'est la ritualisation stricte. Donc on va avoir deux bises là, trois ailleurs, mais c'est comme ça.
Allez, à propos de la bise, Victorien Thomas a promené son micro dans les rues de Paris.
Ben, en fait, c'est très particulier. On embrasse bien sûr son amoureux parce que, je sais pas, c'est une envie qui est naturelle, plus une pulsion peut-être. Les enfants, bien sûr, parce qu'on les aime. Et puis, le reste des gens, bien sûr, c'est pour témoigner un certain rapprochement parce qu'on est proche, donc on s'embrasse, enfin, on se fait la bise.
Mon papa.
Oui, les proches.
Mes proches, mes enfants, ma belle-fille, moi, pas plus.
Ouais. Non. J'aime pas.
Lorsque j'étais enfant, il y avait souvent des tantes ou des personnes dans ma famille qui me faisaient des bises, et moi, je n'aimais pas ça du tout. Je trouvais que c'était un peu une agression. Et donc, je suis plutôt heureux de la situation avec du Covid. Et je trouve ça, c'était d'un point de vue hygiénique aussi, je ne trouvais pas ça très hygiénique.
J'aime pas parce que je ne sais pas.
Non, absolument pas.
Pas du tout.
Famille proche, amis proches.
On fait les checks maintenant.
Voilà.
Pas de bisous. C'est fini les bisous.
Alors, aux collègues de travail, non. Uniquement à la famille et les personnes qui sont vaccinées.
Enlever la bise, c'est enlever aussi leur culture française.
Disons que c'est par rapport à la personne, bien sûr. Donc, automatiquement, si vous êtes avec une jeune femme que vous connaissez, c'est plus agréable que si c'est votre camarade de travail.
Propos recueillis par Victorien Thomas. Commentaire, Jean-Claude Kaufmann.
Ben oui, là on vit une période très très importante et extrêmement intéressante. Parce que dans ces rituels, justement, il y a eu une rupture, et puis on va s'en sortir, faut l'espérer, de cette pandémie. Donc il va falloir retourner vers l'autre, avec la bise. Mais là, on va vivre des... Alors, pas des négociations, parce qu'on va pas trop dire est-ce que t'es pour, est-ce que... etc. On va essayer d'enquêter, de s'adapter subtilement et avec des positionnements qui vont être très variables. Parce que certains... Il y a presque deux camps, effectivement. Certains qui vont avoir envie du retour de l'affection, de la proximité de l'autre, de toucher à nouveau, de pouvoir prouver cette affection. Et d'autres qui vont dire, mais utilisons cette pandémie, parce que quand même la bise, justement, on l'a entendu dans le reportage, très bien, pour les amis, pour les proches, oui, dans le travail. Et puis on est à l'époque MeToo, du consentement. Aussi. Alors, il y a des pro-bises et des anti-bises aujourd'hui, ou des bises sélectives. Alors, tout ça, ça va être très intéressant à suivre.
Je sens qu'Alexandre Lacroix, vous êtes plutôt dans le camp des anti-bises.
Ah non, pas
ah
du
bon ah, je peux non. pas, je pensais.
Non, pas du tout. Non, mais la période qu'on traverse me fait penser un peu à l'Allemagne. Il y a une rédaction de Philosophie Magazine basée à Berlin. J'y suis allé souvent à une période et on a beaucoup parlé de ça, de la bise en fait avec eux avant la pandémie. En Allemagne, il n'y a pas de rituel imposé. Il y a une fracture, si vous voulez, la bise appartient au monde, disons, de l'Empire romain, au monde chrétien, mais entre catholiques et protestants, ça se passe pas tout à fait de la même manière. Les catholiques se font volontiers la bise. Entre protestants, il y a une distance des corps et on ne sait pas ce qu'on va faire. On ne sait pas si on va se serrer la main. On ne sait pas si on va garder les distances. On ne sait pas si on va s'embrasser. Il n'y a pas de rituel social. Et donc, tout se joue dans l'échange de regards. Mais on a très peu de temps. On a très peu de temps. Donc, il y a comme une sorte de négociation par les yeux muettes. On doit évaluer l'autre et évaluer le degré de proximité qu'on a avec lui et voir si on va le faire ou pas. Et ben, actuellement, c'est ce qu'on vit.
À votre regard, je sens que vous avez pas envie de me faire la bise. Belinda Cannon.
Oui, quand même, on est en train de parler de la bise comme s'il n'y en avait qu'une. Je vous rappelle qu'il y en a deux. Si on observe vraiment, la plupart du temps, quand on dit se faire la bise, ça ne consiste pas du tout à mettre ses lèvres sur la joue de l'autre, mais ça consiste à faire frôler les joues d'une façon très mécanique. Et ça, c'est vrai que franchement, moi, je m'en passerais très volontiers. En revanche, la vraie bise, la bise qu'on pose sur la joue, c'est un geste affectif extrêmement puissant, et ça, on en a envie, mais en effet, pas avec tout le monde.
Jérôme Attal.
Oui, j'ai été frappé avec la Covid, de voir comment les grands-parents et les personnes âgées étaient tristes de ne plus pouvoir faire la bise à leurs petits-enfants. Oui. Et moi, alors je me suis remémoré aussi quand j'étais enfant. Moi, je détestais quand des adultes me faisaient la bise quand j'étais enfant. Et peut-être que avec mes parents, je me suis dit que je n'ai pas été aussi affectueux qu'ils auraient voulu que je sois, justement en esquivant leur bise. Et voilà.
Vous êtes rattrapé, hein.
Oui, dans ce petit éloge du baiser. Ouais, non, mais j'en parle parce que c'est quelque chose. Et alors, mon papa adorait Gilbert Bécaud. Et alors, inconsciemment, je me dis, mais Bécaud, c'est la bise aussi. Donc, voilà, mais c'est vrai que moi, j'esquivais plutôt les bises quand j'étais enfant.
Allez, on continue à s'intéresser au baiser. Et vous verrez, ces liens tiennent avec les vampires. Voilà, c'est un beau teaser, ça, Alexandre Lacroix. Ouais. Allez, en attendant, on écoute Petula Clark, La Gâteau.
De septembre au mois d'août, faudrait des bottes de caoutchouc pour patauger dans la gadoue, la gadoue, la gadoue, la gadoue, ouh, la gadoue, la gadoue. Une à une, les gouttes d'eau me dégoulinent dans le dos. Nous pataugeons dans la gadoue, la gadoue, la gadoue. Mettons en marche les essuie-glaces et rentrons à Paris. Ça nous changera pas d'ici. Nous garderons nos parapluies. Nous retrouverons la gadou, la gadou, la gadou, la gadou. Ouh, la gadou, la gadou. Heureusement, toi, ton imperméable.
pêche pas la gadou, la gadou, la gadou, la gadou. La gadou, la gadou. Il fallait venir jusqu'ici pour jouer les amoureux transis et patauger dans la gadou, la gadou, la gadou, la gadou. Ciel gris bleu d'amour et d'eau de pluie. Puis mettons en marche les essuie-glaces et rentrons à Paris. L'année prochaine nous irons dans un pays où il fait bon et nous oublierons la gadou.
Petula Clark interprétait la gadou.
Je sais, ma reine, ma libre.
Grand bien vous fasse.
Que je ne fume.
Quoi, que je ne fume.
Ali Rébéi.
Ah oui, embrasser. Oh, majesté, je voudrais bien, vous savez, mais c'est pas le mot.
Sur France Inter.
10h33, pourquoi aimons-nous les baisers? C'est la question que nous posons à nos invités. Racontez-nous vos plus beaux baisers au 01 45 24 7000. Dites-nous également si vous êtes un adepte ou un contempteur de la bise. Alors Jean-Claude Kaufmann, je rappelle que vous publiez Ce qu'embrasser veut dire. Quelle était la place du baiser dans la peinture jusqu'à l'invention de la photographie? Est-ce que le baiser était très représenté dans la peinture occidentale?
Non, pas tellement. Alors, on aurait pu imaginer, par exemple, qu'à l'époque romantique, le baiser soit très représenté, mais les romantiques contournent un petit peu le baiser. On voit des descriptions où l'amoureux est transi de frissons amoureux, etc. Mais on évoque assez peu le baiser. L'explosion va venir un petit peu plus tard avec la photographie, les cartes postales et un moment extrêmement important, qui est le début d'Hollywood, à cause, alors ça c'est un paradoxe, un événement de l'histoire un petit peu étonnant, à cause de la censure qui interdit de montrer les mouvements, la proximité trop grande des bouches, et du coup...
C'est
on
le
va
code
avoir...
Eyes de 1934.
Oui, absolument, mais ça a commencé avant le début de censure, à cause d'un premier film qui montrait de manière très, très, très directe, en gros plan, un baiser qui avait déclenché la protestation des guides de censure. Et donc, on va avoir l'installation d'une espèce d'icône avec un plan fixe et une expression dans le regard, comme les corps ne peuvent pas se rapprocher, notamment dans les affiches de films. Ça va devenir l'icône de cette nouvelle religion amoureuse sentimentale centrée sur le baiser.
Alors, Alexandre Lacroix, quel a été le rôle du baiser de cinéma, du baiser hollywoodien dans sa mondialisation?
Oui, ben c'est exactement ce qui vient d'être dit. Donc les majors américaines, en fait, craignent que la loi intervienne, leur impose un code de censure. En fait, elles se sont dotées d'un code d'autocensure. C'est-à-dire qu'elles ont mis au point ce fameux code Hays qu'elles se donnent à elles-mêmes, qui est appliqué de manière très stricte de 1934 à 1954. Et dans le code, si vous le lisez, il est dit qu'on peut pas montrer deux personnes qui ne sont pas mariées dans une chambre, qu'on ne peut pas montrer des couples interraciaux, qu'on ne peut pas montrer des gens danser trop lassivement, et vous éliminez, et vous avez une chose qu'il est permise de montrer, c'est le baiser. Donc aux États-Unis, c'est clairement une période, si vous voulez, de restriction, de retour d'un ordre un peu puritain dans le cinéma, après des excès de l'époque du muet. Dans le cinéma muet, il y a des excès qui vont la représentation de l'adultère ou de l'homosexualité est assez fréquente. Il y a aussi
Pourquoi serait-ce des excès?
Non, mais il y a aussi des affaires Weinstein de l'époque, il y a des scandales qui entachent la réputation de certains acteurs. Et donc effectivement, il y a une mise en ordre, une mise au pas de ce que montre le cinéma dans cette période axiale, et ça va produire bizarrement et paradoxalement sur tout le reste de la Terre une libération. C'est-à-dire que en Asie ou en Afrique subsaharienne, ou au Maghreb, ou dans des endroits où on s'embrassait pas, en Italie, c'est montré dans le cinéma Paradiso, vous avez une explosion du baiser.
Belinda Cannon, je rappelle que vous avez publié Le baiser peut-être.
Oui, ce qui m'a frappé lorsque j'ai observé la peinture et la sculpture à travers les siècles, c'est qu'elle a toujours représenté le baiser de façon inégalitaire, c'est-à-dire qu'on voit l'homme penché sur la femme. Et c'est très frappant parce que nous savons tous que ça n'est pas comme ça qu'on donne un baiser. Le baiser, comme je le disais tout à l'heure, est un geste complètement symétrique et égalitaire. La peinture, donc, a représenté le baiser. Ce qu'elle a représenté, en fait, c'est l'inégalité homme-femme. Donc, elle ne représente pas le baiser pour lui-même, mais le rapport de pouvoir, disons, entre les sexes. Je vous fais remarquer, à part ça, que le premier film, l'invention du cinéma, c'est 95. En 96, premier petit film de la compagnie Edison, c'est Le baiser. C'est-à-dire, le baiser est lié fondamentalement à l'invention du cinéma. Quand on voit, on trouve ça sur Internet très facilement, hein. Les deux premiers petits films, c'est des baisers. Donc, c'est plus fort encore qu'Hollywood, je crois.
Alors, vous, Jérôme Attal, hein, vous êtes donc l'auteur du Petit éloge du baiser. Vous aimez les baisers au cinéma, les baisers de cinéma, mais vous aimez par-dessus tout les baisers dans les salles de cinéma.
Oui, oui. Alors, oui. Je voulais juste rebondir sur ce qu'a dit Alexandre pour le code AIS. Ça a aussi permis à des cinéastes comme Vincente Minnelli et puis Hitchcock de développer tout un imaginaire à partir du baiser, du fétichisme pour Hitchcock, et puis le rêve pour Minnelli et tout ce rêve enchanté qui part d'un baiser, ou Proust aussi, hein, où toute l'œuvre de la recherche du temps perdu part de ce baiser à la mer qui ne vient pas et qui se fait attendre. Donc le baiser est aussi source de création et d'imaginaire. Et pour un romancier, moi j'écris des romans, pour un romancier, j'ai l'impression que le baiser, c'est aussi le début d'un roman. En tant que romancier, quand j'embrasse une fille qui me plaît, et ben un roman arrive.
Et sur ma question, donc sur votre goût des baisers au cinéma, dans les salles de cinéma?
Mais oui, alors ce qui est génial, c'est que parfois il y a des mises en abîme, comme dans le film La Boum. Dans le film La Boum, le premier baiser de Sophie Marceau, c'est dans un cinéma. Et pendant qu'un acteur au cinéma, ou que des acteurs et des actrices s'embrassent à l'écran, eh bien dans les cinémas, les gens peuvent s'embrasser. C'est aussi la vitalité du cinéma, et c'est pour ça que le cinéma perdurera toujours et gagnera, parce qu'on aura toujours un endroit, un refuge où s'embrasser, et un refuge en plus qui produit de l'imaginaire.
Et Jean-Claude Kaufmann, vous l'expliquez dans votre livre, hein, le baiser, c'est une affaire très importante chez les adolescents et les jeunes adultes, hein.
Oui, et aujourd'hui, alors quel est le baiser, dans quelle histoire on s'engage à travers un baiser? On ne le sait pas trop. Souvent, il y a un certain mélange. Parfois, c'est un geste, comme je le disais tout à l'heure, un petit peu banalisé, l'entrée dans une trajectoire sexuelle, une première étape dans la séduction, pas très importante. C'est la suite qui va compter d'une certaine manière. Et parfois, c'est beaucoup plus, justement. Et là, on rejoint toute cette histoire et notamment la longue histoire religieuse de la communion des âmes et du transport vers un au-delà. On est héritier de cette histoire. Il y a le désir d'être entraîné, de décrocher de la médiocrité de cet ordinaire. Et c'est ça que porte souvent le premier baiser aujourd'hui, ce moment un petit peu qui coupe du temps un petit peu ordinaire. Et moi, je le remarque dans mes enquêtes, ça se développe aujourd'hui. Il y a un désir de sentimentalité, il y a presque un désir d'une nouvelle forme de romantisme ou de néo-romantisme aujourd'hui, qui n'est plus du tout celui du 19e siècle, mais quand même le désir de s'abandonner aussi, parce qu'il faut s'abandonner à l'autre. Ce qui est le plus difficile dans notre société d'aujourd'hui, où on veut tout maîtriser. Or, à travers l'amour, à travers le baiser, il faut aussi s'abandonner à l'autre pour communier avec cet autre.
Alexandre Lacroix.
Oui, alors moi j'ai pas d'enquête sociologique sur laquelle m'appuyer, mais il y a quelque chose que je regarde de très près, c'est les baisers dans les James Bond. Parce que depuis 1962, on voit des scènes de baisers dans les James Bond, et elles ont beaucoup, beaucoup évolué. Le tout premier baiser de James Bond, c'est Sean Connery et Eunice Garson, et alors là, c'est la sensualité la plus folle, c'est un baiser hollywoodien, extrêmement sentimental. Et puis, à la fin des années 90, au début des années 2000, le baiser était devenu un préliminaire, vraiment quelque chose de complètement fondu dans l'action sexuelle. Il n'avait pas un rôle narratif. Alors, je suis allé hier soir avec mes enfants voir le dernier James Bond. Et il y a une scène de baiser, comme il n'y en a jamais eu dans aucun James Bond précédent. On est en 2021. Il y a un baiser important avec Madeleine. Et James Bond l'embrasse. Il est interrompu par l'arrivée d'un enfant. C'est, en fait, elle a une fille, mais il le savait pas. Alors bon, ça évoque la famille recomposée, ça évoque toutes les difficultés contemporaines. Tout d'un coup, il y a l'irruption du prosaïsme de la relation familiale dans ce couple qui essaye d'exister. Ça n'était jamais arrivé à James Bond auparavant. Mais quand même, j'y vois, on est en 2021, un progrès par rapport à il y a quelques années, parce que je crois que c'est dans Quantum of Solace, c'est le seul James Bond dans lequel il n'embrasse pas. Mmh. Il n'avait plus de désir dans ce film-là. Voilà, donc une sorte de baromètre.
Allez, on reste au cinéma. Alors, Jérôme Attal, pour vous, ce qui exprime sans doute le mieux la fabuleuse énergie que procure un baiser, eh bien, c'est la scène mythique de Chantons sous la pluie. Racontez-nous cette scène.
Ouais, c'est une question d'énergie. Eh bien, Gene Kelly tombe amoureux de sa partenaire qui n'est pas sa partenaire à l'écran, mais qui est la fille qui va doubler sa partenaire à l'écran, parce que c'est l'apparition du parlant, alors qu'on était autrefois dans le cinéma muet. Mais le baiser, c'est aussi ça. C'est tout d'un coup, c'est les langues se délient. C'est l'apparition du parlant, alors que la vie était terne, grise, morose, vraiment triste. Et tout d'un coup, ce baiser a lieu et il y a un déluge de pluie. Et Gene Kelly, il s'en fout. Il a embrassé la fille de ses rêves. La pluie n'a aucune importance. Il peut chanter sous la pluie. Il peut danser sous la pluie. Il offre même son parapluie à un passant qui est là. Et il est heureux et il jubile sous la pluie. Et vive la pluie, vive l'automne qui nous permet de nous réfugier dans les bras de quelqu'un qu'on aime.
Belinda Cannon.
Oui, ça, ce qui me touche, pardon, mais je place mon petit livre là. Je viens d'écrire un petit éloge de l'embrassement qui n'a pas à voir complètement avec le baiser, mais avec le fait de s'embrasser.
De l'embrassement.
Non, embrassement. Ah, parce que s'embrasser, c'est quand même se prendre dans les bras originellement, le sens de s'embrasser.
Abrazo.
Et c'est pour ça, abrazo au tango. C'est donc un petit essai qui part du tango pour réfléchir au fait que nous sommes en relation et en relation étroite. Et c'est ça qui est important dans le baiser aussi. Si on parle des joues, des lèvres depuis tout à l'heure, mais il y a le fait de se prendre dans les bras, et ça, on n'a pas envie de prendre tout le monde dans les bras, en effet.
Alors, on a beaucoup parlé de cinéma, mais quelle est la place du baiser dans la littérature, Belinda Cannon? Le baiser donne rarement lieu à de longues descriptions romanesques ou poétiques. Hein.
Oui, c'est difficile, parce que comment exprimer la saveur, le goût, l'enthousiasme d'un baiser, c'est ce que vous avez essayé de faire, Jérôme Attal, dans votre livre, mais c'est très difficile à exprimer. Alors, dans la littérature, on a plutôt des questions quantitatives. Il y a des pluies de baisers, il y a des successions infinies de baisers, mais quand même, j'ai des souvenirs de Maupassant qui parlent d'un baiser doux, comme, je ne sais plus, enfin, mais c'est très difficile d'attraper, c'est un peu comme ça que je commençais d'ailleurs mon baiser peut-être, je dis que, de même qu'on a du mal à décrire la beauté d'un bouquet, si vous n'êtes pas sensible au bouquet de fleurs, eh bien vous ne comprendrez pas de quoi je parle si je veux parler de la beauté d'un baiser, d'un bouquet, eh bien la beauté du baiser, c'est un peu pareil. Comment décrire tout ce qui peut se passer de minuscule, mais de formidablement puissant dans ce moment enchanté?
Dans votre anthologie littéraire, le goût du baiser, on retrouve Bram Stoker, hein, le créateur de Dracula en littérature, et Alexandre Lacroix, vous établissez une belle
c'est
analogie.
C'est moi le goût du baiser, hein. C'est oui. Pas d'Alexandre
non,
Lacroix.
Non, mais je sais. Ah je bon sais, je sais. Non, mais il, dans son livre à lui, il cite les vampires et l'analogie entre la dévoration cannibale, la morsure réprimée.
Oui, tout à fait, puisque on est en littérature. Moi, j'ai l'impression qu'au XVIIIe siècle, dans les romans, il y a deux baisers qui s'inventent et qu'on jongle toujours avec ces deux registres aujourd'hui. Il y a le baiser romantique, et la grande invention du baiser romantique, c'est chez Rousseau, dans la nouvelle Héloïse, Saint-Preux embrasse Julie dans les buissons, dans un jardin, et c'est comme si le feu le traversait. C'est une très belle scène, mais qui sera réécrite par plein d'autres, par les romantiques, par Stendhal, etc. Et qui va... c'est un best-seller, hein, la nouvelle Héloïse, on le lit plus guère aujourd'hui, il nous paraît un peu suranné, mais ça va avoir une vraie influence, et ça va remettre un peu de sentimentalité dans une société de cour qui est plutôt libertine, en fait, à l'époque. Et puis de l'autre côté, il y a le baiser libertin qu'on voit chez Sade. Et chez Sade, il est très très clair que dans toutes les descriptions de baisers, on est très proche de la morsure, que le baiser est une morsure réprimée, au fond, la bouche intéresse aussi beaucoup les héros ou les personnages de Sade, parce que la bouche est ce qui à la fois peut mordre, c'est-à-dire faire mal, et peut lancer le cri de la douleur. Alors c'est pas tout à fait les vampires, mais il y a comme ça des scènes. Il y a une scène, je crois que c'est dans l'histoire de Julie, ouais. Y a une scène où un personnage dévore la bouche de l'autre pour le plaisir de l'entendre hurler. Donc là, on a quelque chose dans l'excès de Sade ou dans la folie de Sade qui nous révèle une sorte de prédation dissimulée derrière la douceur du baiser. Il y a toujours quelque chose qui ressemble à du cannibalisme réprimé.
Allez, dans un instant, vous verrez pourquoi embrasser lors du premier rendez-vous amoureux n'est pas forcément un signe d'amour. Vous verrez ça avec Jean-Claude Kaufmann qui va tout nous expliquer juste après avoir écouté C'est la Sou qui interprète Hurray.
Got the whole world staring at you. You think it all stops spinning when you close your eyes. You spend all your time trying to make me jealous of you and showing off that beauty that you don't really have. All I see is your mistakes. It's giving me a headache. Your attention seeking and you live for the lies. I can't figure out, yeah, if I pull at the seams, will you fall apart and show beauty only goes skin deep? Everything I see is fake. It's giving me a headache.
Sous-interpréter Hurray.
Grand bien vous fasse, Ali Rebbi, sur France Inter.
10h49, pourquoi aimons-nous les baisers? C'est la question que nous posons ce matin à nos invités. Et nous accueillons Élie. Bienvenue Élie.
Bonjour.
D'où appelez-vous Élie?
J'habite dans le sud, dans un petit village qui s'appelle Cabrières, c'est dans les Roues.
Alors quelle est votre réflexion sur notre sujet du jour?
Ma réflexion, c'est pas tout à fait une réflexion, je dirais que c'est une pensée spontanée. Et ce qui m'a fait réagir, c'est le mot baiser, parce qu'en fait, personnellement, le baiser, c'est un échange, c'est une communion, c'est très organique, c'est physique, c'est corporel, et c'est deux personnes, lorsqu'il y a une pulsion qui est là, qui est présente. C'est des préliminaires au tout ce qui est charnel, sensuel. Le corps se rapproche et en fait, comment je me lâche, qu'est-ce que je donne et qu'est-ce que je reçois. Ça peut être lascif, ça peut être doux, ça peut être romantique, ça peut être tendre. C'est un indicateur au désir. C'est comment je suis dans ma relation à l'autre. Et ça peut aussi monter jusqu'à l'allaitement, c'est comment j'étais avec le sein de la mère, c'est ça, c'est très organique, c'est très physique, puisque ça part des lèvres, et puis ça descend au niveau du cœur, le cœur il peut s'emballer, ou peut rester plus tout cool. Et puis ça peut descendre jusqu'au niveau du sexe.
Et oui, après, évidemment. Merci beaucoup, Élie, pour votre réflexion. Alors, Jean-Claude Kaufmann, est-ce que le baiser indique forcément que l'on est amoureux lors du premier rendez-vous? Si on s'embrasse le premier soir, est-ce que ça indique vraiment que l'on est amoureux? C'est la question que vous posez notamment dans votre livre.
Donc il n'y a pas un indicateur très très clair. Là, on vient d'entendre le baiser, c'est organique, bien sûr, avec toutes les parties du corps, mais pas seulement organique. Parfois, ce n'est qu'organique. Et justement, aujourd'hui, de plus en plus, dans les premiers baisers, on ne sait pas. Des fois, effectivement, c'est organique et puis léger, joyeux. Il y a beaucoup, il y a l'expression « le baiser pour le fun ». On a parlé de la bise dans le milieu professionnel qui marque l'affection. Et dans les premières rencontres, dans des groupes un petit peu festifs, on va s'embrasser assez facilement, comme ça, pour le fun, pour s'amuser. Pour le fun, ça veut dire sans l'idée d'un engagement amoureux, sans l'idée de l'abandon de soi pour rencontrer l'autre. Et c'est ça que peut porter le baiser amoureux, la communion avec l'autre, le fait d'être porté dans un élan. Et là, dans les premiers baisers, eh bien, il y a des manières différentes de le donner, et ça peut être des entre-deux. À la fois un mélange de désir, d'organique, si l'on veut, et puis de désir de communion et d'élan sentimental. Et ça, c'est la question du baiser, la complexité et la magie du baiser, d'une certaine manière.
Jérôme Attal.
Il y a un texte qui est effroyablement beau de Michel Foucault qui s'appelle Le corps utopique, et dans lequel il dit justement que s'embrasser et même faire l'amour, c'est justement le lieu où le corps est là, alors que notre corps, c'est vraiment une utopie tout le temps. Et en fait, Michel Foucault, mais il est admirable ce texte, il faut que vous le lisiez. Il dit que dans le regard de l'autre, dans le baiser de l'autre, le corps existe enfin. Et c'est voilà, c'est ça là aussi le baiser.
Alexandre Lacroix.
Moi, je ne sais pas si c'est décisif le baiser du premier soir. Par contre, ce qui est certain, c'est que le baiser offre un assez bon baromètre du couple quand il est installé. C'est-à-dire, suivant le nombre de fois où on s'embrasse par jour, la manière dont on le fait, est-ce qu'on considère que la langue de l'autre est intrusive ou désagréable ou au contraire délicieuse. Enfin, suivant ce qui se passe au niveau du baiser, on peut avoir un assez bon indicateur de l'état de la relation, de l'état sentimental de la relation, quand bien même ce qui se passe, je dirais, de plus sexuel ne le donne pas forcément cet indice. Si vous voulez savoir ce qui se passe au niveau des sentiments, au niveau affectif dans un couple, regardez comme ils s'embrassent, parce que vous allez peut-être en voyant que les chevaux cavalent à merveille au lit par ailleurs, être trompé par cette vigueur et ce débordement d'énergie sexuelle qui peut recouvrir une forme de mépris ou de détachement sentimental. Donc le baiser baromètre du couple, moi c'est ce que j'avais mis dans mon essai, puis j'avais été après invité par des sexologues à parler devant eux, et les sexologues m'ont dit ça nous a intéressé cette histoire parce que nous on n'a aucun texte scientifique, médical, théorique là-dessus, mais on sait que quand on reçoit un couple en difficulté, la première question qu'il faut leur poser pour établir une forme de diagnostic ou avoir une photographie, c'est de leur situation, c'est comment vous vous embrassez. On sait que en clinique, c'est ça qu'il faut faire, mais on ne sait pas pourquoi.
Belinda Cannon.
Oui, parce que je crois aussi, comme je le disais tout à l'heure, que le baiser, c'est le geste du désir par excellence. Donc, pour tester le désir dans un couple, l'interroger sur le baiser, évidemment, c'est fondamental. Et par ailleurs, en effet, ce qu'il y a de particulier dans le baiser, mais comme dans toute la sexualité, c'est qu'elle engage, c'est pas l'organique ou la communion spirituelle, elle engage ce que j'appelle le corps-esprit en un seul mot, c'est-à-dire elle engage simultanément tout ce qui est de l'ordre du corporel et aussi tout ce qui est de l'ordre du spirituel, parce que c'est ça que nous sommes, des corps-esprit, et le baiser manifeste la rencontre de deux corps-esprit.
Jérôme Attal.
Ben oui, tellement de discussions autour du baiser alors qu'on a juste envie de s'embrasser, quoi, à un moment donné. Hein.
Tiens, justement, comme dans Les Beaux Gosses.
Tourne pas toujours ta langue dans le même sens.
Mais attends, mais c'est mon style de roulage de pelle. Chacun son style de roulage de pelle. Heureusement que tout le monde n'a pas la même technique. Chacun sa technique.
Et t'as embrassé qui déjà?
Bah, des autres gens. Des filles, des italiennes.
Jérôme Attal, oui.
Il y a un truc très beau, je discutais avec une amie l'autre jour et elle me disait, c'est vrai que j'avais oublié ça, que quand elle était adolescente, elle s'entraînait à embrasser dans le creux du poignet. J'ai trouvé ça tellement joli.
Et il est beaucoup question des premiers baisers dans votre petit éloge du baiser. Bah,
chaque baiser est un premier baiser, comme chaque roman est un premier roman.
Premier baiser d'adolescent, notamment.
Ouais, ou tout le temps. Hein. Ouais. Mais vraiment, il faudrait s'embrasser comme si c'était toujours le premier et jamais le dernier.
On se pose beaucoup de questions lors des premiers baisers adolescents. Dans quel sens il faut tourner la langue? Est-ce qu'il faut fermer les yeux? Pourquoi on ferme les yeux, tiens, d'ailleurs, quand on s'embrasse, Belinda Cannon? Ça tombe sur vous, cette réponse. Pourquoi?
À cause de la concentration dans laquelle on se trouve alors, parce qu'on se met à battre, on se met à palpiter au baiser, pendant le baiser, et on est entièrement concentré en soi-même, donc on ferme les yeux. Il faut dire aussi que l'extrême proximité qui fait qu'on louche devant les yeux de l'autre qui sont à 2 mm.
C'est vrai que ça peut être flippant quand on s'embrasse que l'autre ait les yeux ouverts. Enfin bon, petite réflexion personnelle. Alexandre Lacroix.
Bah, ce qui est amusant quand même sur les adolescents ou la jeunesse, faut se rappeler l'anxiété qu'on avait sur la technique. L'extrait de film était génial. Et il y a plein de petits tutoriels vidéo où on explique comment embrasser. Moi, j'en avais visionné pas mal quand j'écrivais l'essai. Et je vois qu'il y a trois techniques. Moi, il y a beaucoup d'ados, par anxiété, veulent faire le tambour. Mais le tambour de la machine à laver, vous voyez, c'est oui. Je tourne toujours de la même manière, etc. Après, ils découvrent qu'on peut faire quelque chose de plus fin, procéder par pointillisme, petites touches délicates, etc. Moi, c'est ce que j'appelle le pinceau. Et puis enfin, il y a le stéthoscope. Moi, j'appelle ça comme ça. C'est peut-être un peu... le stéthoscope, c'est quand la langue devient une enquêtrice et qu'on essaye d'aller inspecter les ridules du palais, vous voyez, les molaires de l'autre, enfin. Et voilà. Et puis, peut-être encore une dernière technique qui serait le bâton où la langue mime un acte de pénétration plus clair. En tout cas...
Vous connaissez Jean-Claude Kaufmann ?
Oui, effectivement. Puis j'ai lu le livre d'Alexandre et effectivement... Les ados, c'est l'angoisse de la technique. Ils vont voir les tutoriels, ils discutent entre eux. Et puis, il y a l'idée, effectivement, de la performance qui peut inciter à ne pas avoir une technique très, très adaptée.
Voilà. C'est dommage qu'on n'ait pas parlé du baiser avec moustache, parce que là, nous avions l'occasion, Jean-Paul Kaufmann, de vous interroger. Alors, c'est comment quand on a une moustache comme ça?
Faudrait demander à un partenaire, surtout en face, celui qui a la moustache.
Non. C'est genré. C'est genré, en tout cas, contrairement à ce qui a été dit précédemment.
Et c'est vrai, et c'est Maupassant, je crois, qui s'interrogeait sur la saveur des baisers sans moustache, lui qui portait de belles bacchantes comme vous, Jean-Claude Kaufmann. On peut lire avec profit ce qu'embrasser veut dire, Jean-Claude Kaufmann. C'est publié chez Payot. Belinda Cannon, Le baiser peut-être, c'est chez Alma Éditeur. Contribution à la théorie du baiser, Alexandre Lacroix, c'est chez J'ai lu. Et le très joli petit éloge du baiser. Merci. De Jérôme Attal, c'est aux éditions Les Pérégrines, et demain, grand mets vous fasse loisir.